Voici ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. Au chapitre 4, les versets 32 et suivants. C'est un des textes que nous proposons à la lecture du jour. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. Ainsi, Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie « l'homme du réconfort », possédait un champ. C'était un lévite originaire de Chypre. Il vendit son champ, en apporta le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà, je voulais vous accueillir avec ce texte qui correspond assez bien avec ce que nous avons vécu ces temps-ci. C'est donc un texte du jour. Vous savez que la puissance du Seigneur ressuscité, etc. Parce que je vous rappelle qu'il y a hier et vendredi soir, vendredi après-midi, et puis un petit peu ce matin, en pointillé, si je puis dire, il y avait la Fédération, les Journées nationales de la Fédération d'entraide protestante de France qui se réunissaient. Donc, nous sommes sous le signe de l'entraide, comme quoi ce texte tombe quand même assez bien. Je ne sais pas si c'est un coup du Saint-Esprit, mais enfin, dans tous les cas, ça marche bien. On peut le voir comme ça. Mais je trouve que c'est intéressant de voir cette sorte d'enthousiasme qu'il y a dans ce récit. La suite est moins brillante, puisque c'est l'histoire un peu sulfureuse d'Ananias et Saphira, vous savez, qui trompent les apôtres, etc. Ça finit pas très bien. Mais dans tous les cas, le gros de la communauté, la vie dans une sorte de société égalitaire, enfin, qui est intéressante. Mais il y a de la générosité et puis de quelque chose assez enthousiasmant. Et c'est pour ça que je voulais vous lire ce texte, pour vous accueillir les uns et les autres aujourd'hui. Et en particulier, tous les quelques rescapés de ce week-end de la Fédération d'entraide protestante, vous êtes la bienvenue, évidemment. J'espère que vous vous sentez bien dans ce temple et que vous y avez évidemment votre place comme il se doit. Mais à tous les autres aussi, je dis la même chose, que vous soyez de passage, que vous soyez les habitués de la maison. Vous savez que nous sommes là tous ensemble pour passer un moment dans l'espérance, dans la fraternité, évidemment. Un temps mis à part. Alors, nous sommes là, on n'est pas très très nombreux, nous sommes les vaillants d'Israël, comme je dis, on a vaincu le marathon, ce qui n'est pas tout à fait simple. On a vaincu le soleil aussi, ce qui est encore plus compliqué. C'est un concurrent redoutable aussi, il faut le dire les choses comme elles sont, mais on se retrouve là les uns et les autres, je crois, pour vivre d'un essentiel qui est une parole d'espérance et d'amour. Et j'espère que par l'Esprit, cette parole vous touchera les uns et les autres, évidemment, parce que c'est vraiment le signe d'une grâce qui nous est offerte, quelle que soit notre appartenance. Je crois qu'il y a une universalité du message dans la Bible qui fait que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sont vraiment frères et sœurs, vraiment à part entière, ce qui implique là aussi un certain type de conduite. J'essaierai de vous le montrer à travers la prédication de tout à l'heure. Donc soyez les bienvenus pour vivre ce moment de culte. J'espère que vous avez les deux registres, le bleu pour les chants liturgiques. Donc vous pouvez aller tout de suite à la page 15 et le marron pour les chants qui sont commandés. Et une fois que vous aurez trouvé la page 15 bleue, vous prendrez vos registres marron pour prendre le psaume 118, les strophes 1 à 4.
Thank you.
Dans les récits de la première alliance, il y a des récits de prophètes, ils sont nombreux, variés, mais souvent revient cette critique négative à l'égard du peuple et des dirigeants du peuple, c'est que l'injustice sociale règne dans le royaume de Juda ou le royaume de Samarie. Il s'appelle Esaïe, il s'appelle Élie, Osée, Amos et quelques autres. Ils n'ont pas de mots assez durs pour fustiger le peuple, les dirigeants, lorsqu'ils dérapent ainsi, mettant le doigt sur un deuxième problème, c'est que cette injustice sociale est le signe, finalement, d'un dérèglement religieux, que Dieu est remplacé par une idole ou des idoles. Ça va même jusqu'à l'injure, je voulais souvent souligner, hein, c'est lorsque Amos monte à Samarie pour traiter les grandes dames de Samarie de vaches de Bassan. Hein, c'est comme si on allait à l'Élysée dire à Madame Macron, vous avez un cul de charolaise tellement vous êtes grasse et engraissée sur le dos des malheureux. Je veux dire, ça finirait pas bien. Je veux dire, et en fait, c'est ça qu'il y a dans le texte. Vous voyez, hein, on a tendance à édulcorer parce qu'on est habitué à voir ces textes, à les entendre depuis notre enfance. Mais ces textes sont violents. Ils sont violents parce que l'enjeu est de taille. Je veux dire, je déteste vos cultes, vos sacrifices, etc. Dans Esaïe, vous avez cette critique qui est extrêmement dure. Même lorsque vous faites semblant de venir prier pour moi, ben ça vaut rien du tout. Je veux dire, parce qu'il y a à côté de vous des gens qui meurent de faim, des gens qui sont mis de côté, qui sont les délaissés de la société. Et donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la loi. Comme l'on dit, les paroles de cette première alliance et même les paroles de la deuxième, évidemment, ça va de soi, peuvent être portées dans une seule parole, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a dans cette injonction, dans cette demande, dans cette parole, tout l'enseignement de la loi et des prophètes. On prend la page 15. Père, nous sommes là face à toi. Je ne crois pas que nous puissions être mauvais de nature. On fait ce qu'on peut, mais ça ne porte pas de fruits, évidemment. Et puis nous sommes comme l'apôtre. Bien souvent, nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire. Il y a des choses qui nous dépassent, des forces qui nous ballottent de ci, de là, qu'on ne maîtrise pas. Pardonne-nous, Père, d'être en deçà de ces paroles de la Bible. Pardonne-nous de ne pas entendre ces cris des prophètes, ces injures qui sont finalement des mots de tristesse face à la situation. Pardonne-nous lorsque nos silences sont trop pesants. Pardonne-nous lorsque nos paroles sont trop violentes. Pardonne nos gestes inconséquents et nos égoïsmes. Développement personnel, se réaliser, et ainsi de suite. Nos journaux sont pleins d'exhortations à vivre repliés sur soi-même, à se faire grandir soi-même. Et puis les autres, ils sont là. Ils sont là avec leurs questions, leurs problèmes, leurs joies aussi, comme pour nous, leurs réussites et leurs échecs. Oui, pardonne-nous, Père, de ne pas ouvrir nos forces, notre ego, comme on dit aujourd'hui, au monde, pour accueillir ce monde dans sa richesse et sa diversité, dans son questionnement. Laisse-nous nous arracher à nous-mêmes pour aller et vers toi et vers les autres. Oui, Père, nous sommes dans un face-à-face avec toi qui pose notre dignité et nous te remettons toutes nos vies, telles qu'elles sont, avec ces moments difficiles et ces moments de joie, avec ces moments de lumière et ces nuits obscures. Merci, Père, de nous recevoir ainsi, tels que nous sommes. Amen. page 16. Il y a un texte qui me plaît bien dans la Bible, il y en a plusieurs, hein. Mais vous le connaissez par cœur, ce texte, c'est l'histoire de la femme adultère. Et à la fin de l'histoire, elle dit, qu'est-ce qu'on te reproche à cette femme de dire, voilà, et personne ne te condamne, dit Jésus, de non, dit la femme, dit moi non plus, moi aussi je ne te condamne pas, dit Jésus à cette femme, va et ne pêche plus. Ben, c'est ça la grâce, vous voyez, il y a toute la grâce là-dedans. C'est-à-dire que même si nous dérapons, puis ça nous arrive, hein, pas vous faire de dessin, vous connaissez vos vies, je connais la mienne aussi, donc ça coince hein, par moment. Même si nous dérapons, eh bien, nous ne sommes pas condamnés. En tant que personne, nous ne sommes pas condamnés. Et ça, c'est intéressant, parce que la grâce, le pardon, c'est là pour nous décharger d'un poids. De telle sorte que, quand Jésus dit « Je ne te condamne pas, va !» Tu as une légèreté de l'être qui te permet d'aller dans la vie, d'accomplir tes projets, tes pensées, que sais-je encore. Va, mais ne pêche pas. C'est-à-dire que tu es posé dans une dignité de personne qui est responsable, responsabilisée de ses actes. Nous sommes pardonnés, mais nous sommes exhortés à aller de l'avant, et essayer de réparer les choses autant que faire se peut. C'est ça la grâce. C'est un moment de liberté, un moment extraordinaire qui nous permet d'aller dans la vie pour porter un témoignage qui est un témoignage de vie et d'espérance. Et je vous invite à dire à Dieu notre reconnaissance. Page 17. Dans la joie, la reconnaissance que nous pouvons dire notre confession de foi. Seigneur Dieu vivant, nous confessons ton nom comme Dieu de la vie, parole vivante, parole libératrice, appel, joie et projet. Par les prophètes et par Jésus-Christ, tu nous montres ce que sont ta fidélité et la grâce qui touchent chaque être vivant ici-bas et aujourd'hui. Comme hier, comme demain, par ton esprit, tu affirmes ta présence dans ce monde que tu sauves du chaos. Et nous te rencontrons dans le partage de ta parole, dans le regard de l'autre, dans des gestes de la vie, dans un morceau de pain rompu. Fort dans ta faiblesse, nous savons qu'en Jésus-Christ, tu nous libères de toute peur, que tu permets le face-à-face avec toi. Nous savons que tu nous appelles à vivre une vie d'éternité. En tout cela, nous reconnaissons avec Jean que tu es amour, avec Paul que tu es liberté et avec l'Apocalypse que tu es notre espérance. Amen. Thank you. Père, merci de nous avoir permis ce face-à-face avec toi dans ce temps de liturgie. Merci de nous avoir reçus finalement tels que nous sommes. Et merci de nous avoir déchargés d'une culpabilité trop lourde à porter. Père, tu nous envoies dans la vie, mais nous avons besoin de ta présence, de la force de ton esprit, de ta parole qui est là pour nous faire vivre. Au moment de partager le témoignage de la parole à travers la lecture de la Bible, que ton esprit soit sur chacune et chacun d'entre nous, afin que nous puissions vivre en plénitude ces paroles, ces témoignages et ces souvenirs. Amen. Et je vous invite à entendre dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, les versets 21, au chapitre 4, le verset 13. Pardon. Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé, lui aussi priait. Alors le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Et une voix vint du ciel. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. Il était fils, croyait-on, de Joseph, fils de Élie, fils de Matta, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Yanaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils de Élie, fils de Nagaï, fils de Matt, fils de Matathias, fils de Semein, fils de Joseph, fils de Yoda, fils de Yonan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melki, fils d'Addi, fils de Kossam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Yorim, fils de Matta, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Yonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessé, fils de Yobed, fils de Boaz, fils de Salah, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Hérom et fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nakor, fils de Serouk, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Eher, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Yared, fils de Malélel, fils de Caïnam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain. Il était dans le désert, conduit par l'Esprit, pendant 40 jours. Et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit alors à Jérusalem, il le plaça sur le faîte du temple et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Et Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, avant de revenir là-dessus, je vous invite à prendre le chant 302. Contrairement à la logique de nos sociétés, Père, il est vrai que le serviteur de tous est certainement le plus grand, parce que c'est celui qui fait vivre en vérité et dans l'espérance. Merci, Père, de nous rappeler cette évidence. Amen. Voilà ces récits que vous connaissez bien. Il y en a une partie de ce récit que vous sautez en général quand vous arrivez à la page ad hoc, c'est la généalogie de Jésus. Je ne sais pas si vous lisez tous les noms des ancêtres de Jésus les uns après les autres, comme je l'ai fait. Ça n'est pas qu'un exercice de diction. On aurait pu le croire, mais ça n'est pas tout à fait le cas. Il y a dans cette généalogie un enseignement qui est intéressant. Je ferai remarquer que dans la généalogie de Jésus, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en particulier, il y a les femmes dans la généalogie de Jésus, ce qui n'est pas le cas chez Luc. Luc est un peu plus macho, mais je ne vais pas entrer dans cette réflexion qui est intéressante. Je voudrais insister sur le fait que Jésus est appelé « mon fils » au moment du baptême, comme s'il y a une sorte d'élection privilégiée. Et donc là, Jésus s'affirme dans sa filialité bien, par rapport au Père. Mais tout de suite, Luc nous donne cette généalogie. C'est assez curieuse parce que ça n'a pas l'intérêt fou finalement d'énumérer tous ces noms de personnages. Il y a beaucoup de rois, il y a beaucoup de noms que nous connaissons, etc. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'il y a un enseignement théologique finalement. La généalogie de Jésus, elle passe par l'humanité. Jésus est fils de Joseph. Et ça, c'est clair, net et précis. Et on remonte ainsi de fils en père, non pas de père en fils, mais de fils en père, on remonte ainsi jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu. Voilà. Or, à travers toutes les méandres de cette généalogie, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a toute la Bible qui y passe, un nombre de personnages célèbres de la Bible qui sont énumérés là-dedans, je veux dire, et il y a de tout. Quelqu'un qui n'est pas chrétien dirait, mais vous voyez, c'est complètement dingue, cette généalogie, Adam, on sait très bien qu'il a été façonné avec de la terre, il n'est pas fils de Dieu, etc. Bon, voilà, mais on pourrait lui dire, le jour où Dieu lui souffle dans les bronches, si je puis dire, trivialement parlant, à ce moment-là, il devient véritablement humain, comme si Dieu lui donner l'essentiel, le souffle de vie, pour qu'il soit véritablement humain. Il n'est pas que fait de chair, il est fait aussi fait de chair et de souffle, et du souffle divin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, à partir d'Adam, il y a toute la suite qui arrive, comme si ce souffle qui était donné à Adam passait par le col génétique et allait de génération en génération comme cela, à travers toute une longue liste, jusqu'à Joseph, le père de Jésus, et Jésus lui-même. Je pense que les rédacteurs de l'évangile de Luc, selon les récits que l'on choisit, ne donnent pas tout à fait la même orientation théologique. C'est effectif que si j'avais pris les évangiles de l'enfance chez Luc, eh bien je vous aurais dit, ben voyez, Jésus est né de la Vierge Marie et du Saint-Esprit, etc. Puis j'aurais développé cette idée voilà, à travers beaucoup de considérations qui sont un petit peu longues d'énumérer là. Mais j'ai choisi ce texte-là parce que précisément, ce qui me frappe lorsque je lis cette généalogie, c'est qu'on a l'impression qu'il y a Dieu qui est présent, évidemment, tout à fait au départ de cette aventure humaine, mais qu'il y a Dieu qui traverse toute cette humanité, hein, de père en fils, d'être humain à être humain, finalement, si on élargit un tout petit peu, évidemment, hein, et qu'on arrive ainsi jusqu'à Jésus. On a l'impression qu'il y a une sorte de projet divin, qu'il y a une sorte d'énergie divine là qui se diffuse de génération en génération, qui fait que finalement, si Jésus est fils de Dieu, fils d'Adam, etc., eh bien nous sommes, nous aussi, à l'instar de tous ces hommes de la Bible qui sont énumérés les uns après les autres, nous aussi, des fils et des filles de David, de David bien sûr, et de Dieu. Et c'est ça qui m'intéresse. Il y a cette présence de Dieu avec un projet pour tout ce peuple. Le projet est intéressant. C'est que de ce peuple-là, qui est la descendance de Dieu, d'après le récit de Luc, ce peuple, il va être constitué dans un acte de naissance qui est l'Exode. Et parce que l'Exode, je voulais raconter ici, c'est vraiment un accouchement. Hein, le peuple sort de l'eau, de la mer des joncs ou de la mer rouge, enfin peu importe, et il va traverser le désert dans la solitude et la difficulté, avec la vie qu'il faut organiser, les manques, la souffrance qu'il peut y avoir, et lorsqu'on fait ses premiers pas, et puis il va se lancer petit à petit dans l'aventure de l'histoire, finalement, dans l'aventure des êtres humains, et être là comme un témoignage de la présence de Dieu dans le monde. Ce témoignage qui peut, comme je disais tout à l'heure, être quelquefois un peu virulent quant aux paroles à travers les prophètes, mais qui rappelle toujours finalement la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu pour son peuple, hein, cette présence de Dieu constante dans ce peuple et dans le monde finalement. J'ai l'impression qu'à partir de cette généalogie qui est véritablement humaine et qui pose véritablement cette présence de Dieu dans l'humain, il y a ce projet de faire vivre un peuple à travers le récit de l'Exode. Alors c'est vrai que tout n'est pas rose, on ne va pas dire le contraire, puisque dès que l'aventure commence, là, je ne vous ai pas lu tous les textes, c'est un petit peu long, mais ça murmure dur, comme dit la Bible, c'est-à-dire que le peuple râle, et du coup, il y a cet épisode de la manne. L'épisode de la manne, il trouve intéressant, ce qui nous concerne, surtout dans les journées de la FEP en particulier, c'est que pour répondre aux râleries du peuple hébreu qui a faim, qui regrette la bonne chair de la vallée du Nil, c'est vrai que dans le désert, c'est pas terrible, eh bien, il leur envoie la manne. Alors, tous les matins, il y a la manne, pas de problème, etc. Mais on ne peut pas garder la manne. Et si on la garde, si on la met de côté, elle pourrit et en plus, elle empeste. Et moi, je trouve ça assez génial parce que ça implique plusieurs choses. D'abord, qu'il faut avoir confiance en Dieu parce que demain, Dieu sera toujours présent pour nous donner ce dont nous avons besoin, fondamentalement parlant. Et puis, si on met de côté, là, ça pose toujours des problèmes. Si on ne partage pas, si on garde par devant soi, eh bien, on prive les autres. S'il y a un morceau de pain qu'on doit se partager, on peut le partager en deux, chacun à sa part, selon ses besoins. Mais aussi, s'il y en a un des deux qui dit « Moi, je prends ma part aujourd'hui parce que j'ai besoin pour vivre, mais je prends un petit peu pour demain », il va le prendre sur la part de l'autre. Ouais. Alors, vous me direz, c'est un peu simpliste, les sociétés sont plus complexes. Mais il y a beaucoup de gens qui mettent de la manne de côté. Et parfois, cette manne, elle empeste aussi. Elle empêche les hommes de vivre. Là, nous ne savons que trop. Hein? Quand cette manne peut servir à des spéculations financières, on ne peut être qu'extrêmement chagrin de voir des choses pareilles. Quand cette manne, cette richesse que nous avons est mal distribuée, on peut se poser quelques questions. Mais c'est ainsi. Il y a malgré tout, malgré ces difficultés structurelles de l'être humain, cette question de la manne, qui donc ne peut être gardée, parce que Dieu a bien prévu le coup, visiblement, si je puis dire, eh bien, l'aventure de l'Exode va quand même se réaliser dans des conditions que vous savez, qui ne sont pas toujours très très faciles, évidemment. Il y a donc ce projet qui m'intéresse, que Dieu qui est présent dans son peuple, véritablement, le peuple qui est vraiment l'héritier de Dieu, dans tous les sens du terme, il y a ce projet qui est là de le constituer en peuple dans sous le regard de l'histoire. Donc il y a quelque chose de communautaire qui est assez intéressant. Mais il y a un autre projet de Dieu, qui est le projet personnel, aussi individuel, et qui dans bien des cas ressemble bien au projet de Dieu que pour son peuple et au récit de l'Exode. Jésus. Comme le peuple sort de la mer des joncs, Jésus sort de l'eau du Jourdain. Voyez-vous ? De même que le peuple est guidé par la présence de Dieu, la colonne de fumée ou la colonne de feu, Jésus est guidé par l'Esprit aussi. Et il traverse le désert lui aussi, comme le peuple a traversé le désert pendant 40 jours. Pas pendant 40 années, mais le 40 est là pour nous le signifier. Cette période qui est une période de difficultés et d'épreuves dans laquelle on va se forger une identité, finalement un projet, que sais-je encore, puiser des forces. Mais là, il est tenté, il jeûne. Il ne mange pas, il va avoir cette tentation. Lorsqu'on est dans la faiblesse, comme le sont les êtres humains qui sont automatiquement dans la faiblesse, parce que nous sommes limités, nous avons cette finitude, comme on dit, Et comme je dis souvent, on va tous mourir dans cette pièce, c'est une bonne nouvelle, je suis désolé, mais enfin c'est comme ça, si ça déplaît à certains, vous n'y échapperez pas, vous aurez beau vous agiter, ça ne marchera pas. Et on a cette faiblesse, on a des tentations, tentation d'être le surhomme, d'être immortel, hein, tentation de la puissance, que sais-je encore. Et lorsqu'on a faim, c'est la tentation de pouvoir manger, évidemment, je me dis, c'est assez évident. Alors le diable joue là-dessus. Le diable, c'est notre faiblesse qui s'exprime d'une certaine manière. Et la petite voix intérieure nous dit, ah, si seulement je pouvais changer les pierres en pain, ce ne serait pas si mal que ça. C'est un petit peu pervers, quand même, de la part du diable. Moi, ça ne va pas nous étonner. Mais si j'avais la possibilité de changer les pierres en pain, ce serait quand même pas mal, parce que je pourrais comme ça éradiquer complètement la faim dans le monde. Je pourrais distribuer à tout le monde, sans problème, jusqu'au fin fond des savanes les plus reculées ou des bidonvilles les plus perdues. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Alors, est-ce que ça vaut le coup, peut-être, de donner son âme au diable, si je puis dire, pour pouvoir sauver l'humanité. C'est des problèmes qu'on pose parfois aux enfants pour voir un peu quelles sont les réactions des uns et des autres. Mais manque de peau, ça marche pas comme ça. Un jour, Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, a nourri 5 000 personnes. Voyez, il joue petit. Hein. Jésus, 5 pains et 2 poissons. Je veux dire, franchement, hein, nous, on fait quand même mieux. On a quelques millions de tonnes de surplus agricoles qui sont stockés ici ou là dans les pays les plus riches. Alors, ces 5 pains et 2 poissons, je veux dire, hein, la multiplication des pains, c'est fait. On l'a fait. Hein, et dans plusieurs denrées, pour plusieurs denrées en plus. Le problème, c'est qu'avec quasiment rien, Jésus a nourri beaucoup. Et que nous, avec beaucoup, on nourrit quasiment rien. Là, le problème, il est là. Et ce n'est pas parce qu'on aura la puissance de changer les pierres en pain qu'on va solutionner le problème. Vous voyez ? Car le problème, il n'est pas là. Le problème, il est effectivement dans la relation qu'on va avoir avec les autres, que ce soit des proches ou des lointains, peu importe, mais c'est bien là qu'est le problème. La manière dont on va partager et redistribuer, finalement, ses richesses. Il manque quelque chose dans le discours du diable pour que ce soit fonctionnel, son truc. Mais s'il y a ce quelque chose, on va fuir le diable. Même si je parle en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Même si j'ai la foi la plus totale jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Et même si je donne mon corps aux flammes, cela ne sert à rien si je n'ai pas l'amour. C'est-à-dire cette relation que je vais entretenir avec l'autre, où je vais poser l'autre dans son identité telle qu'il est, sans lui demander de compte, etc., mais vers lequel j'aurai envie d'y aller, pour être le prochain de l'autre, selon la parabole du bon samaritain, pour lui apporter secours, sans lui demander son nom, sans lui demander quoi que ce soit, de compte finalement, mais voir quel est réellement son besoin. Le diable peut nous proposer ce qu'il veut, mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne fonctionne pas, finalement. Alors, comme ça ne marche pas, il y a la puissance politique. Là aussi, c'est pareil, hein, finalement, parce que si j'ai la puissance politique, je pourrais apporter la paix dans le monde. Enfin bref, vous connaissez le truc. Hein. Et là aussi, faire en sorte que la distribution de surplus alimentaire puisse se faire dans la dignité et dans l'efficacité. Mais ça ne marche pas comme ça non plus, malheureusement. Ça ne marche pas comme ça. On sait très bien que les hommes ne possèdent pas le pouvoir, mais que c'est le pouvoir qui possède les hommes, malheureusement. Et que les hommes, quand ils deviennent puissants, ont tendance à classer, ont tendance à organiser de telle sorte que, à côté de leurs idées, à côté du pouvoir, il y a toute une frange de population qui n'entre pas dans les vues du pouvoir. Et cette frange de population, en général, est rejetée, voire éliminée, purement et simplement. Toutes les dictatures dans lesquelles les hommes ont un pouvoir absolu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, finalement, bien, sont ainsi. Ou bien on entre dans les vues du pouvoir, ou bien on est éliminé. Et les opposants, les clubs de philosophie, des gens comme les francs-maçons, par exemple, tout ça est interdit, rejeté, etc. Et nous le savons. Même si nous instituons le pouvoir de l'amour. Parce que si j'ai le pouvoir, après tout, je veux dire, j'ai instauré le pouvoir de l'amour. Moi, comme ça, tout le monde sera content. Là, il n'y aura pas de problème. Mais ceux qui n'entrent pas dans cette manière de voir, on va les voir comme ceux qui ne veulent pas entendre parler de l'amour. Ça va être des affreux jojo, pire que tout. Et tous les pouvoirs qui manient le langage de l'amour pour installer leur puissance sont en général les pires. Vous savez que Staline, qui a quand même quelques millions de morts sur le dos, hein, il avait un nom extraordinaire, on l'appelait le petit père des peuples. Vous voyez, c'est quand même sympathique, le petit père des peuples. Vous voyez. Voilà. Malheureusement, le petit père des peuples avait un couteau dans les dents et les choses ne se sont pas très bien terminées. Mais on pourrait multiplier comme cela. L'Église elle-même, lorsqu'elle parle d'amour, peut devenir l'Inquisition dans certains de ses domaines. Là, nous ne savons que trop ce type de dérapage. Et on pourrait multiplier les exemples. Oui, le pouvoir est quelque chose de diabolique, qui nous fait rêver, qui nous fascine, parce qu'on peut tout faire lorsqu'on a le pouvoir. Et c'est fascinant. J'ai un de mes garçons qui a côtoyé le pouvoir d'assez près et qui m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais, c'est pas tellement ce moment où il y avait deux ou trois ministres qui avaient piqué dans la caisse et qui s'étaient fait prendre, vous savez, bon. Il m'a dit, c'est pas tellement ça qui attire les hommes de pouvoir. Pas tellement les finances. C'est le fait que quand ils arrivent quelque part, on leur ouvre les portes, on leur met le tapis, etc. Qu'il y a une file d'attente, ils passent devant, ils ont un coupe-fil et ainsi de suite. C'est quand ils vivent véritablement cette sensation du pouvoir qui les enivre complètement. Et c'est intéressant de ce type d'analyse. Vous voyez, on est pris, on est saisi par le pouvoir, on devient quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà, on a sa place au Panthéon et sa statue au coin des rues. Bon, enfin, c'est comme ça. Mais n'empêche qu'on meurt comme tout le monde, là aussi. Et puis alors, si tu m'adores et si tu te laisses tomber du haut du faîte du temple, eh bien, les anges de Dieu te récupéreront. Là aussi, récupérer Dieu pour soi est quelque chose d'épouvantable. Dire se substituer à Dieu en le prenant pour nous, d'une certaine manière, c'est toute la forme de l'idolâtrie, finalement, des formes de paganisme aussi qui sont là et qui sont des dérives, là aussi, de la puissance dont l'homme rêve et qu'il voudrait avoir, mais qu'il voudrait avoir à son profit. Hein, si tu tombes, il te ramassera, dire, véritablement. Mais il aurait été peut-être plus intéressant de dire, invoque ton Dieu pour qu'il vienne t'aider afin de donner les possibilités pour aller vers les autres ou d'aller aider les autres directement, quelque chose comme ça qui aille vers le monde, vers les autres. Et dire, mais là aussi, évidemment, invoquer Dieu pour venir nous sauver, s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Nous sommes que dans des formes d'idolâtrie avec toutes les dérives qui peuvent se faire lieu à des moments pareils. Et c'est bien le problème. Et nous pouvons nous retrouver, évidemment, dans tous ces cas de figure, peut-être pas de manière aussi forte et violente telle que je viens d'exposer, évidemment, mais je veux dire, nous sommes comme ça, un peu comme ça. Problème de la mort qu'on voudrait dépasser, problème de la puissance qu'on voudrait avoir un peu plus, véritablement, problème de Dieu dont on voudrait voir des manifestations claires, nettes, précises, etc. Voilà. Et pourtant, nous sommes les fils de Dieu. Nous appartenons à cette généalogie. Si nous pouvions continuer cette généalogie de Luc, eh bien, il y aurait les descendants de Jésus, réel ou spirituel, enfin peu importe, et puis on arriverait jusqu'à nous très vraisemblablement, et on pourrait dire nous aussi, nous sommes les fils de Dieu finalement, et c'est, il y a quelque chose qui est intéressant. Et je crois que le fait que Jésus qui sort de l'eau, qui traverse le désert, qui subit les tentations comme le peuple qui sort d'Égypte et qui est constitué en peuple, là quand c'est un homme qui le vit, ça devient non plus l'affaire du peuple, le projet du peuple, mais le projet pour l'individu. Qui est là. L'individu, à partir de ce moment-là, quand on fait cette comparaison, Hein, il est le résultat, si je puis dire, de manière malhabile, de ce deuxième projet de Dieu, qui est de faire de nous, à travers ce peuple libre des Hébreux, de faire de nous des hommes libres, finalement. Des hommes libérés, finalement, de la culpabilité, de la faute, du poids qui pèse sur nous lorsque nous dérapons. La tentation, elle est là pour nous mettre en garde, évidemment, pour montrer qu'elle peut être vaincue si on se tourne véritablement vers Dieu. À chaque fois, Jésus répond par une parole de l'Écriture qui le libère finalement de la tentation. Hein, et il y a là l'émergence d'un être nouveau, finalement, un être qui va vaincre finalement le problème du mal à travers Jésus-Christ lui-même. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais c'est vrai que nous sommes les enfants de Dieu. Ce que Paul va développer, d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, aussi. Alors, comment ça se vit? Si je pars de cette idée que Dieu, pour chacun d'entre nous, a un projet, si je pars de cette idée que, en chacune et chacun d'entre nous, il y a quelque chose de Dieu, si je pars de cette idée qu'il y a un projet pour l'ensemble, le peuple que nous formons, alors, quel regard je vais poser sur l'autre? Sur l'autre qui est là, comme un être créé, toujours recréé à nouveau par l'Esprit et par l'amour de Dieu. Parce que aimer, c'est créer, finalement, ou recréer. Et c'est ça qui est important aussi pour nous, en ces journées où on a réfléchi sur ce que peut être la diaconie et l'entraide, et qu'on débouche, je dirais, quasiment naturellement, par ce regard qu'on va porter sur les autres, réalisant qu'ils sont eux aussi des enfants de Dieu, qui sont véritablement nos frères et sœurs, et qu'ils appartiennent au même peuple que nous, finalement, avec des projets qui sont semblables, même s'ils sont personnels, dire on va porter sur un regard tel que ensemble, on va pouvoir lancer des projets, construire, rencontrer, écouter les autres, finalement. Parce que s'ils sont semblables, ils ont aussi leurs expériences, des tas de choses à entendre et des tas de choses à dire et à raconter, finalement, bâtir. Bâtir quelque chose de nouveau à partir d'hommes nouveaux, d'hommes recréés, régénérés sans cesse par l'Esprit, d'hommes instruits par les récits de la Bible, eh bien, c'est vivre quelque chose du royaume, c'est bâtir les royaumes, c'est bâtir l'espérance aussi pour tout un chacun. Et ça, je crois que c'est important, surtout en cette période. L'espérance. L'espérance, ce n'est pas un rêve, mais c'est véritablement quelque chose qu'on touche du doigt, quelque chose qui devient possible parce qu'on en a les signes déjà dans le présent. C'est pour ça que la période de Pâques, avec ce qu'elle porte d'espérance, d'un amour plus fort que la mort finalement, d'un amour qui fait tout, qui permet la vie dans sa plénitude, je dirais, et quelque chose de tout à fait exceptionnel. Incontestablement, il y a, je crois, pour tous les êtres humains, quels qu'ils soient, un projet divin qui est fondé sur l'amour, qui est fondé sur l'espérance et qui s'appelle, pour tout un chacun, le royaume. Amen. Je vous fais part de quelques annonces pour la semaine à venir. Alors, je perds mes feuilles. Je rappelle aux conseillers présents ici que mercredi prochain, il y a le conseil presbytéral. Madame la présidente. Que vendredi 13, nous avons les JMJ. Alors, les JMJ, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est jeunes et moins jeunes. Je précise. Voilà. Au départ, c'était jeunes ménages et jeunes. Mais les jeunes ménages sont partis sous d'autres cieux, où on vieillit. Et donc, le groupe a un petit peu changé dans sa configuration, est devenu toujours JMJ, mais jeunes et moins jeunes. Nous sommes dans notre Père et on est dans le problème du mal. Délivre-nous du mal. Voilà. Donc c'est à, je ne dis pas de bêtises, 19h30. Dimanche prochain, c'est Dominique Hernandez qui présidera le culte. Donc c'est intéressant que vous puissiez venir l'entendre pour des tas de raisons. Alors, je change un peu de registre, je ne t'oublie pas. Il doit y avoir encore plein de gâteaux, des bonbons au chocolat, du café. Je ne sais pas s'il y a des jus de fruits, je ne les vois pas là, mais enfin, il doit y en avoir, j'espère. Si vous voulez passer un moment après tranquille et poursuivre la discussion sur ce que je viens de dire, soit pour aller plus loin, soit pour le contester, je ne sais pas, enfin peu importe, mais pour vous rencontrer, je crois que c'est important. Et ne croyez pas que ces moments de café, de gâteau, etc., soient comme ça. Ça fait partie du culte. Le fait de se donner le temps avec plaisir pour se rencontrer, c'est vraiment déjà le culte, ou encore le culte, il ne faut pas l'oublier, je veux dire. Parce que si on arrive, on va, et puis on part comme un voleur, avec la parole qu'on confisque pour soi, c'est déjà pas mal, je ne vais pas dire le contraire en tant que pasteur, je veux dire, bien sûr, mais c'est mieux si on peut s'accueillir les uns les autres et se rencontrer les uns les autres. Voilà, maintenant ceux qui ont... un repas à préparer parce qu'il y a la famille qui vient, un truc comme ça, je comprends que vous soyez pressés. Alors, c'est tout pour les annonces ? J'ai rien oublié ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu me fais signe là ? Ah oui, il y a des confitures. Aussi. Eh bien, ça, on ne va pas vous les distribuer, on va vous les vendre. Voilà. Bon, on n'est pas la haute banque protestante, donc on ne va pas manier des finances colossales, rassurez-vous. Mais on vend les confitures. Voilà. Et parce que la gourmandise est quand même un bienfait de Dieu. Et donc, ne l'oubliez pas, si Dieu nous a donné des papilles gustatives, c'est pour qu'on s'en serve et être un peu gourmand, c'est honorer Dieu aussi d'une certaine manière. Voilà. Alors, il y a Évangile et Liberté. Oui, viens causer là.
Bonjour. Pour ceux de vous parler d'Évangile et Liberté. Donc tous ces numéros-là sont à votre disposition pour que vous puissiez découvrir la revue. La revue, dans ce numéro-là, il y a même un article de Vincent que je vous recommande. Donc ils sont à votre disposition et par la suite surtout, abonnez-vous. Comme ça, vous serez sûr de ne pas me manquer un numéro. Donc je vous en prie, abonnez-vous. Merci.
Je profite encore de ces bonnes annonces pour... remercier Fred qui est au perchoir là-haut pour son accompagnement musical. Et puis, si vous voulez échanger des souvenirs, prendre des nouvelles, eh bien, vous avez Pierre-Jean Ruff là que j'accueille aussi, qui est de passage parmi nous. Donc, vous pourrez le rencontrer tout à l'heure. Je ne sais pas si tu restes tout à l'heure. Je ne sais pas si tu passes un moment après, mais il n'y a pas de problème. Certains auront le plaisir de te rencontrer très vraisemblablement. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, je parlais des confitures tout à l'heure. Si vous achetez des confitures, vous allez vous faire plaisir, gustativement parlant, mais aussi vous allez remplir les caisses de l'Église. C'est quand même une bonne chose, on fait d'une pierre deux coups. Voilà. Dans l'offrande, c'est la même chose. Je vous invite à vous faire plaisir en participant à l'offrande. Certes, ce n'est pas un plaisir gustatif, mais c'est un plaisir spirituel, parce que c'est une... participation au culte, à la reconnaissance. Et effectivement, tout ce que les églises drainent, ben, c'est mis au service de la parole, de l'entraide, que sais-je encore, etc. Donc je vous invite à participer à ce moment d'offrande en chantant le cantique 279 en entier. écouter la voix intérieure, j'espère que ce n'est pas celle du diable, mais écouter la voix intérieure qui est celle de Dieu, qui vous ouvre la vie vers les autres, tous les autres, ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont rejetés, malheureux, quelle que soit l'origine de ces difficultés ou de ces malheurs. Il y a dans vos mémoires des situations, des noms, des visages, des gens de vos familles, des très proches, mais aussi celles et ceux qu'on essaye d'imaginer, qu'on ne voit jamais, qu'on ne verra jamais, mais dont on sait qu'ils sont eux aussi dans des difficultés terribles. Dans notre prière, il y a tout ce monde qui est là. Et puis, il ne faut pas oublier le monde de ceux qui travaillent pour essayer de porter témoignage, un témoignage d'amour, de justice et de partage dans ce monde. Puis il y a ceux qui sont dans la joie, il ne faut pas les oublier, bien sûr, pour espérer que leur joie soit encore plus grande, évidemment, mais qu'ils puissent, dans ces moments de joie, ne pas oublier les autres, qu'ils puissent partager, quand c'est possible, aussi cette joie. Il y a nos églises auxquelles nous pensons, notre pays aussi, et tant de gens et de monde. Nous mettons tout cela au Père. Notre Père, toi qui es au cœur de nos vies, ton nom est au-dessus de tout nom. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde et que ta parole nourrisse chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous pardonnes, toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations et aux forces du mal et de la mort. À toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de ta parole, au siècle des siècles. Amen. Lorsque Jésus rencontre des gens en difficulté, il arrive à les sortir de l'ornière dans laquelle ils sont bloqués, qu'il arrive à les réintroduire dans la société, il y a souvent cette parole « va ». Voilà. Alors « va » ne pêche pas, comme je disais tout à l'heure pour la femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais cette parole va, il a dit à toutes celles et tous ceux qu'il rencontre après la résurrection, enfin au moment de la résurrection, il le dit aussi à pas mal de gens qu'il a soignés, qu'il a guéris de paralysie, de maladie. Oui, allez en tant que tel, en tant que peuple constitué, peuple de Dieu, porteur du projet de Dieu, porteur d'une idée du royaume, pour en témoigner. Puis allez de manière individuelle, dans votre identité, celle que Dieu vous a transmise, pour que vous soyez aussi autant de lumière dans ce monde qui en a besoin. Oui, allez en paix, car pour chacune et chacun d'entre vous et pour toutes et tous ensemble collectivement, il y a un projet de Dieu. Il peut passer par la traversée du désert, certes, mais il débouchera toujours sur une terre promise et sur le royaume. Allez en paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde maintenant et à jamais. Amen. Page 19.